Déclaration de principe de Rio sur les forêts. Déclaration de principe, non juridiquement contraignante, mais faisant autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts. Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement. Les États doivent promulguer des mesures législatives efficaces en matière d'environnement. 1992. Le pacte diabolique entre l'État et le citoyen. Ainsi, les principes de Rio assignent-ils un rôle important aux États? Toutefois, même dans leur formulation, le principe, la déclaration, repose non seulement sur un excès de confiance en l'État et son peuple, mais aussi sur une trop large flexibilité quant à leur mise en œuvre. Par ailleurs, un principe, même beau, est bien trop souvent plus une sorte de vœu pieux, d'engagement moral, qu'une contrainte forte de type juridique. L'exemple le plus probant est sans doute le refus du président des États-Unis, George W. Bush, de ratifier en 2001 le protocole de Kyoto de 1997 visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Derrière cette non-ratification permettant d'éviter des lois contraignantes, se cachait en réalité la défense d'industries américaines polluantes au cœur de la croissance économique. D'autant plus que dans le même temps, il y avait à leur égard prodigalité de subventions, telles celles à l'agriculture, en dépit d'une adhésion au principe du libre-échangisme, à défaut d'une signature d'une charte environnementale. L'Europe n'était d'ailleurs jamais en reste. Derrière ces dévoiements se cachent bien trop souvent des intérêts particuliers, lobbyistes, petitement claniques ou étatiques, grandement égoïstes surtout, propres à la nature des hommes et des États. En réalité, depuis très longtemps, existe un subtil pacte tacite entre l'État, démocratique ou non, et l'homme, le citoyen. Un vote favorable ou une soumission docile en échange de la maximisation de son intérêt particulier, et ce au détriment principalement de la nature, de zones géographiques éloignées, ou d'absents ne pouvant protester, les générations futures. Tel le capitalisme exportateur de contrées lointaines, africaines ou asiatiques par exemple, fait profiter l'Occident de matières premières et de produits à faible coût de main-d'œuvre, sans que ce dernier ait à en payer le vrai prix, comprenant notamment les coûts tant sociaux qu'environnementaux de ces dites contrées. Quant aux générations futures, c'est bel et bien un pacte de spoliation intergénérationnelle tant financière qu'écologique qui sévit sans dire son nom. Car depuis la seconde moitié du XXe siècle, le développement économique se fait véritablement aux dépens de l'environnement, a fortiori des générations futures qui seront spoliées d'une terre riche en forêts, en biodiversité, en ressources naturelles. D'autre part, depuis les crises économiques de la fin du XXe et du début du XXIe siècle, les gouvernants favorisent une pseudo-croissance économique pour acheter une paix sociale, croissance rendue possible grâce uniquement à un endettement public incommensurable, chronique et immoral. Ils spolient ainsi les générations futures en les faisant de facto débitrices. Néanmoins, la crise de la dette des pays développés des années 2010 a révélé enfin toute la supercherie, au moins éclairée de leurs peuples et de leurs élites, bref, la quasi-totalité. L'absence de gouvernance mondiale. L'État et l'homme ne peuvent pas être crédibles à eux seuls en vue d'œuvrer pour la protection de la nature. Par conséquent, un nouvel ordre s'impose plus que jamais, en l'occurrence une gouvernance mondiale forte au-dessus des États du monde et faisant autorité pour pallier leur sempiternel défaut d'implication réelle et sérieuse, une gouvernance salutaire qui travaillera à une grande politique environnementale et universelle.